conférence privée du noviciat par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard, le 12 novembre 1992.
Facilité tout à fait particulière. L'Esprit Saint, c'est net. L'Esprit Saint est pour nous, comme dit saint Thomas, directeur. Être recteur. J'aime beaucoup ces deux expressions de saint Thomas. C'est directeur, celui qui nous dirige. Et le recteur, c'est celui qui purifie notre intelligence. C'est le recteur, l'Esprit Saint. Donc il agit sur le cœur et sur l'intelligence. Donc conseil, qui est l'intelligence pratique, et la piété, le point de vue affectif. Mais c'est obéir à l'Esprit Saint, c'est se remettre entièrement à son bon plaisir, c'est-à-dire le bon plaisir du Père. que si l'Esprit Saint, mais moi, je suis incapable de discerner si c'est de l'Esprit Saint, si c'est de mon imagination. Et c'est vous qui me direz si c'est de l'Esprit Saint ou d'imagination. Et ces rôles constamment envoyés du prêtre en tant qu'instrument de l'Esprit Saint vers ce discernement. Ça, c'est l'imagination. Donc, oui, c'est un rôle négatif. Ça, c'est l'Esprit Saint suivi. Marthe, pour ça, était merveilleuse. Parce que Marthe, jamais, n'imposait quelque chose comme d'elle. Je crois que c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint. Demandez à votre Père. La vraie maternité spirituelle, c'est de conduire vers le prêtre. Comme instrument de l'Esprit Saint. Certains liens avec le prêtre dans l'église latine, c'est net. En Orient, c'est un peu différent parce que l'Orient a une souplesse toujours plus grande qu'en Occident. Ça c'est le propre de l'Orient. Il y a d'autres exigences, voyez. C'est ce point de vue-là. Il y a ensuite, donc je dirais que c'est premier. C'est l'autorité dans ce cas-là le plus fort. Vous avez ensuite, je mettrai. Assez stoïque dans la vertu, sens absolu, mais qui s'appuie beaucoup sur les vertus. L'éducation stoïcienne pourra très bien ne pas du tout s'ouvrir, ouvrir son cœur, et ne rien dire de ses tentations. Il arrive à se dominer suffisamment. Vous lui dites quelque chose qui vous blesse, Mystère. Mais il garde tout ça. Alors, à beau jour, ça éclate. Ça dépasse, ça éclate. À propos d'un rien, quelquefois, c'est une araignée qui tombe du ciel. Et ça éclate. Parce qu'au fond, on n'a pas eu cette confiance à l'égard de ceux qui exerçaient sur nous le fort externe. Que ce soit le père maître, que ce soit le supérieur. Prieur. Parce que vous ne l'avez pas choisi. Le fort interne, on le choisissait. Tout le temps. On le choisit. Mais on demande, vous voyez, que dans les constitutions, qu'il soit dans l'esprit des constitutions, avoir comme directeur spirituel un prêtre qui ignore complètement la communauté, qui n'a pas lu nos constitutions, qui n'est pas d'accord. C'est pas tout à fait idoine pour un religieux. Quelqu'un qui est marié n'a pas de constitution, donc c'est très simple. Mais c'est quand même très curieux, n'est-ce pas ? Cacheton, en théologien, se pose la question, est-ce que le mari, vis-à-vis de sa femme, a une autorité de fort externe ? Ça au XVIe siècle. Il dit pas ça au XXe siècle. Il dit que le mari a autorité de fort externe. Sauf qu'un mari demanderait à son épouse de ne pas trop jeûner. Parce qu'elle est déjà assez trop faible, voit une santé. Et qu'il ne veut pas qu'elle soit trop faible. Et elle doit obéir à son mari. Et son directeur spirituel. Fort interne doit respecter le fort externe. Un directeur de fort interne qui ne respecte pas le fort externe, eh bien, c'est pas juste. Il doit respecter que quelqu'un est novice, il est novice. Quelqu'un est marié, marié. C'est pour ça que vous pouvez, si vous confessez, vous devez toujours demander quel état de vie vous avez. Êtes-vous marié? Êtes-vous mère de famille? Parce que c'est pas la même chose. Oh non. Et avant, maintenant, il y a moins de danger. Mais avant, quand on était dans le confessionnal et que c'était noir comme tout, vous voyez, et que c'est le curé d'Ars qui disait ça, nous avions un gosse qui vous regardait. Qu'est-ce que tu regardes? Ton œil. C'était le gosse qui regardait l'œil du curé d'Ars. Comme ça. Je regarde ton œil, on voit très bien ça. Je dis, si tu allais dans le noir, par un œil. Alors ça avait des yeux très très perçants, très lumineux. Alors le gosse, il regardait ça. On lui a été dit, hein. Surtout quand tu vas te commencer, regarde l'œil du curé d'Ars. C'est ça qui l'a trigué. Alors, vous voyez, fort intermédiaire, ce que je crois très important, ce fort intermédiaire, c'est d'avouer ses tentations. De dire ses tentations. Alors, on ne dit pas ces tentations à n'importe qui. Et celui qui exerce sur nous le fort externe, je crois que c'est très utile quand on vit. vertu quand on n'est pas très vertueux. Et là, ça c'est le point de vue du fort interne, du fort intermédiaire. C'est lié au... Le fort interne, c'est la docilité à l'Esprit Saint. Et cela regarde l'exercice de la foi, de l'espérance et de la charité, les vertus théologales. Et l'exercice des dons du Saint-Esprit. Le fort intermédiaire, c'est tout le domaine des passions. Et l'acquisition des vertus. Mais les tentations. Et le fort externe, c'est la vie courante. Il peut se faire que celui qui exerce sur nous le fort interne soit le même que le fort externe. Il peut se faire, c'est pas impossible. L'Église laisse une très grande docilité à l'égard du fort externe, du fort interne. Mais ça se peut. L'Église dit de, par prudence, oui, par prudence, c'est mieux distinguer les deux, mais pas tellement au noviciat. C'est-à-dire, l'Église là, parce que un noviciat se fait plus facilement quand, de fait, le permettre peut-être momentanément pour un an et demi, deux ans, notre père spirituel, ce qui est assez normal. Puis là-dessus, le confesseur, le confesseur n'est pas notre directeur spirituel. Comme confesseur, il doit écouter nos fautes. Il demande un bon confesseur, demande avez-vous un père spirituel? Et il respecte. Parce qu'un confesseur n'est pas nécessairement un père spirituel. Mais au confesseur, c'est l'accusation de nos fautes. Voyez bien que l'accusation de nos fautes, ce n'est pas le fort interne dans toute sa force. Le fort interne dans toute sa force, c'est notre docilité à l'Esprit Saint. C'est le mystère de l'amour et de la charité divine. Tandis que des fautes, c'est pas du divin. C'est évident. Nos fautes, c'est nous. C'est très humain, ordinairement. Et au confesseur, vous avouez, alors vous pouvez avouer au confesseur vos fautes contre la foi, l'espérance et la charité. Alors à ce moment-là, ça touche quelque chose de beaucoup plus profond. Et ordinairement, en avouant les fautes contre la foi, l'espérance et la charité, pour un chrétien, il avoue ses tentations. Et on peut avouer ses tentations. Il y a des complicités. C'est très difficile de savoir quand on est très tenté, si vraiment on résiste, ou si on se laisse aller un tout petit peu. Vous voyez, il faut intéressant de voir ce qui se passe. Voir l'astuce du démon. Elle regarde d'un œil, puis on dit d'un côté, non, je ne veux pas, quand même. Non, vous voyez, il y a des petites complicités. Et ces petites complicités, ben, on peut les avouer, parce que c'est quand même pas tout à fait net. Alors, vous savez, vous voyez, l'autorité de fort interne, l'autorité de fort externe, l'autorité du confesseur. Et le confesseur exerce une autorité par rapport au péché avoué. Mais ce n'est pas le directeur spirituel. Alors, ordinairement, il faut bien comprendre ça, l'Église demande au noviciat qu'on désigne des confesseurs habituels. Mais l'Église dit qu'on peut toujours aller se confesser à n'importe quel prêtre ayant juridiction. La liberté intérieure de notre âme. Pas toujours. Mais, per modum actus, pas comme directeur. Alors évidemment, si quelqu'un n'a pas de directeur et qu'il est coincé, il se jette sur le premier confesseur venu et puis il demande d'être son directeur, ce qui est un manque de prudence. Parce que le confesseur ne sait peut-être pas nécessairement la situation dans laquelle se trouve, vous voyez. Surtout de visite. noviciat, qui est quand même un petit Jean-Claude. C'est pas une secte, le noviciat. Ce serait très faux de dire que c'est une secte. Mais c'est quand même un milieu très spécial que l'Église, du reste, veut. Parce que si c'était pas un peu en serre chaude, il y aurait des quantités de choses qui ne se feraient pas. Alors on doit faire attention à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'ordinairement, on désigne tel père, qui sont les pères respectables d'une communauté, comme confesseur habituel. Comme confesseur habituel. Et on peut se confesser à n'importe quel prêtre, par mode, per modo magnus. Mais pas de façon habituelle. C'est le gouvernement de l'Église, comme ça. Et on comprend très bien, tu vois, ça c'est une sagesse. Oui. Et puis avant, il n'y en a plus maintenant, tu vois, c'est plus obligatoire. Avant, il y avait, pour le noviciat, et pour après, il y avait ce qu'on appelait les confesseurs extraordinaires. Les confesseurs extraordinaires venaient deux ou trois fois par an. Trois ou quatre fois par an. Surtout pour les communautés contemplatives qui étaient cloîtrées, pas des carmélites. S'il n'y a aucun prêtre qui vient, il ne peut pas demander à sa supérieure, j'ai envie d'aller voir le curé du coin. Et c'est pas commode à la supérieure de faire venir le curé du coin, exprès pour une religieuse. Alors, il y a les confesseurs habituels qui viennent. Qui sont imposés. Vous voyez, c'est ça qui est très différent. Le confesseur est imposé d'une certaine manière. Mais le directeur spirituel, non, celui-là, le Seigneur veut que nous choisissions. Et qu'il y a un choix. Et il ne faut surtout pas en avoir plusieurs. Parce que si on en a quatre, venez, on lui demandera la même chose aux quatre. Les quatre diront quatre choses différentes. Et par le fait même, on choisira nous-mêmes. Le grand moyen de plus avoir un directeur spirituel et donc de plus obéir et de faire à sa fantasia, c'est d'avoir trois, quatre pères spirituels. Ça fait partie de certaines coteries spirituelles, voyez, qui fait que, au fond, on peut conseiller à n'importe qui. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de demander conseil à n'importe qui. Moi, quand on me demande conseil comme ça, je dis, qui est votre directeur spirituel ? Ben, allez lui demander conseil. Ah, je peux pas, il est loin, il est absent. Bon, très bien. Alors, et puis quand vous le reverrez, vous demanderez si c'est bien dans le sens qu'il veut. Parce qu'on n'a pas autorité, au sens strict, à donner conseil à n'importe qui. Vous êtes extrêmement réservé là-dessus. Sur vocation. Quelqu'un vient au monastère et puis il vient vous rechercher. Ben, on demande toujours quel est votre directeur spirituel. Avez-vous un père spirituel? Qu'est-ce qu'il dit? C'est toujours important. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, j'en ai jamais parlé. Vous en parlerez. Parce que autrement, il ne voit pas. Alors vous voyez les diverses autorités. C'est ça qui est important. C'est que l'obéissance change en fonction de l'autorité. Vous devez toujours vous demander quand vous recevez un ordre si celui qui vous le donne a vraiment autorité. S'il n'a pas autorité, vous n'avez pas à obéir. On obéit qu'à l'autorité. Mais un frère qui a reçu un mandat de l'autorité peut exercer. Alors il faut un tel m'a demandé de vous dire ça. Ou me demande de faire ça, je ne peux pas le faire, je vous demande de m'aider. Si vous ne pouvez pas vous en référer à celui qui a autorité. On n'obéit qu'à l'autorité. Vous n'obéissez jamais au démon. J'espère. Le démon a sur vous un grand pouvoir. Il n'a pas d'autorité. Donc distinguons bien autorité et pouvoir. Obéir au pouvoir du démon, c'est pécamineux. Obéir à quelqu'un que autorité, c'est toujours vertueux. Il faut obéir à l'autorité, il faut obéir dans la mesure de l'autorité. Quelqu'un qui a autorité sur le fort interne, que vous lui donnez. Le jour où vous dites à un prêtre, je vous considère comme mon père spirituel.
Ha ha ha.
Oui, on comprend très bien que le vendu du fort externe exige beaucoup de force, beaucoup d'abandon, beaucoup de patience, un don explicite, et que l'autorité de fort interne exige beaucoup plus la confiance. C'est moins la force. Quoique ça peut exiger la force au point de vue, aussi de l'accomplissement du travail. L'obéissance réclame qu'on prenne l'ordre du supérieur comme c'était nous qui l'avions fait. C'est pas nous, c'est celui du supérieur. Mais on l'épouse, on le reçoit et on veut l'exécuter avec toute sa générosité comme c'était nous-mêmes qui l'avions découvert. L'autorité réclame ce que je vous ai déjà dit. L'obéissance réclame la coopération. On coopère. Mais n'exige pas nécessairement l'abdication de toutes les opinions qu'on peut avoir. Le supérieur me demande ça. Si il m'avait rien demandé et que j'avais dû faire de moi-même, j'aurais fait tout à fait autrement. Premièrement, quand le supérieur demande un acte, je ne sais pas, quelque chose dont, selon nos compétences, on dit c'est imprudence, c'est pas ça qu'il faut faire. Une fois de plus, il se met le doigt dans l'œil. on sait ça, mais il n'a pas le prénom, il n'a pas les compétences. Bon. Si c'est quelque chose qu'on doit exécuter, qui n'a pas une grande importance, vous voyez, ça vous fera perdre l'heure, et c'est tout. Si ça a d'immenses conséquences sur toute la communauté, je crois qu'on peut, à ce moment-là, après avoir fait une petite prière intérieure, dire, écoutez, mon père, est-ce que vous croyez que c'est bien? Je me permets de faire cette petite remarque. Est-ce que vous croyez que c'est bien? Parce que ça me semble. Mais si vous le dites comme ça, en demandant, ben oui, vous pouvez le faire. Si c'est quelque chose que vous devez faire immédiatement et ça n'a pas une importance énorme, qu'on pourra très bien rattraper après, vous le faites. Et puis après avoir fait, vous venez dire là, vous dites la remarque. Vous voyez? Parce que je crois que normalement, pour un juge, il obéit. Le mieux qu'il peut, en disant je vais essayer de faire que les dégâts soient moins nombreux. J'obéis. Et on peut toujours un peu contourner l'obéissance pour que les dégâts soient moins forts. Voyez. Et surtout, il ne se mettra pas à murmurer autour de lui en disant petit copain qu'il aime bien, tu vois, j'ai dit. Il vient de me dire ça, alors vous voyez, alors on est deux murmurés, puis une troisième qui passe, et ça fait un petit soviet d'opposition par rapport à supérieur. Et c'est comme ça que se naissent des divisions. Parce qu'on n'a pas été suffisamment loyal. Parce qu'ils sont loyauté. Et qu'on dit ça supérieur. Mais on vous voyez, dire que il faut garder notre conscience qui est au-delà de l'autorité, c'est faux. C'est être mal, il n'y a plus d'obéissance. Hein. Parce qu'alors c'est tout simplement être d'accord avec son supérieur. Ce supérieur est très intelligent, je lui obéis toujours parce qu'il est toujours d'accord avec moi. Alors, vous comprenez qu'à ce moment-là, c'est plus l'obéissance. C'est transformer l'obéissance tout simplement en une coopération amicale. Mais c'est très bien. Ça peut arriver que le supérieur soit toujours d'accord. Et même quand il est toujours d'accord avec lui, si on veut vraiment obéir, on doit intérieurement purifier son jugement et dire j'obéis parce qu'il me le demande et que c'est Dieu qui me le demande. Je suis très heureux d'être intelligent et d'être conforme à ce qu'il me dit et de penser exactement comme lui. C'est très agréable. Le Seigneur répond. Parce que si c'était l'inverse, peut-être que je ne serais pas du tout obéissant. Mais là, il sait ma faiblesse. question. Oui.
Est-ce que de suivre le conseil d'un père spirituel, c'est un acte d'obéissance ?
Le conseil d'un père spirituel qui vous dit par exemple quoi, vous avez quoi dans la tête ? Sans y aller. Bien. amène ou qu'elle... Il n'a pas d'autorité comme confesseur. Alors là, il peut y avoir des conflits. Mais autrement, les conflits existent surtout au point de vue du fort externe. Alors, du point de vue du fort externe, s'il s'agit d'une chose qui n'est pas très importante, il vaut toujours mieux obéir. Essayer de revenir auprès de celui qui nous a dit ça. On va dire, écoutez, on